Vous écoutez RTL.
La curiosité, c'est parti. Je suis très très impatient d'écouter tout ça avec Sidonie.
Ah, j'ai une bonne question pour vous, Stéphane. Ah. Vous savez que j'aime vous connaître de plus en plus. Ouais. Vous croyez aux extraterrestres ?
Non.
Bon. Et pourtant,
voilà, au revoir, merci.
À bientôt.
Et pourtant, il en existe des témoignages et même, tiens, des peintures rupestres vieilles de 3000 ans où l'on voit des sortes de cosmonautes en lévitation. Vous allez voir, c'est très troublant. On vous racontera tout ça vers 14h30.
Allez, tout de suite sur RTL, on observe les animaux, les plantes et les humains qui résistent au froid.
La curiosité est un vilain défaut.
Qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est pas possible. Il fait au moins, 8000.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Partout sur notre corps, on a des terminaisons nerveuses, les thermorécepteurs.
RTL.
Chaque fois qu'il y a un changement de température ambiant, que ce soit la température augmente ou que ça baisse, ces thermorécepteurs envoient un message au cerveau.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Le froid au menu de notre curiosité du jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. On est ensemble jusqu'à 15h sur RTL avec Sidonie Bonnec. Ça va Sidonie ?
Salut, salut Thomas Hugues, salut à vous les curieux. On est ravis de vous accueillir. Vous savez que dans cette émission, on adore se passionner pour tout, les aventures, la nature, l'histoire, les sagas musicales, les grands destins. Notre passion n'a pas de limite. Et puis évidemment, on s'intéresse à ce qui nous concerne au quotidien. Et aujourd'hui, le froid.
Bonjour Eventia Ioannidou.
Bonjour.
Bienvenue. On vient d'entendre votre voix dans la mise en onde de notre réalisateur Sébastien Douduit. Vous êtes commissaire et chef de projet de l'exposition Froid qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Donc ce qu'on propose là maintenant aux auditeurs d'RTL, c'est une approche un peu scientifique du froid. Le Moscou-Paris, cette masse d'air, la courant d'air qui vient de Sibérie tient ses promesses, toute la France grelotte. On va parler, tiens, peut-être de record. Quelle est la température la plus froide jamais enregistrée en France et dans le monde ?
Alors en France, je crois que c'était en 1985, hein, c'était moins 41 degrés dans le Doubs.
Oui.
Et dans le monde, c'est en Antarctique. Je crois que le record, c'était en 2010 avec à peu près moins 93 degrés Celsius.
Moins 93 degrés Celsius en Antarctique. Est-ce que la vie est possible à une telle température ? Est-ce qu'il y a des organismes qui tiennent ?
Exactement, il y a des organismes qui tiennent, mais c'est pas n'importe quel organisme, c'est des organismes qui ont développé des mécanismes qui leur permettent de survivre à des extrêmes, parce que c'est quand même une extrême le moins 93.
Est-ce que le froid a une limite ou alors il est infini ?
Il a une limite, le froid. D'ailleurs, cette limite, elle est bien précise. Elle est à moins 273,15 degrés Celsius. C'est vraiment la limite du froid. Vous voulez une explication ?
Parce qu'au-delà du froid, il y a quoi,
pourquoi,
en fait, alors ?
On ne peut pas descendre plus bas. C'est la température la plus basse.
Alors, expliquez-nous pourquoi moins 273,15 degrés précisément.
Quand on dit froid, il faut penser à température. Et la température d'un corps, c'est le mouvement de ses particules à l'intérieur, de ses molécules.
Oui.
Donc, plus les molécules bougent vite, plus sa température est grande, plus elles bougent moins. Enfin, moins il bouge, c'est plus froid.
D'accord.
Donc au bout d'un moment, ce mouvement s'arrête, quand il va s'arrêter, et on a fait des calculs, enfin c'était au XVIIIe siècle qu'on a fait ces calculs, et on a calculé que c'est à moins 273,15 degrés Celsius.
Où il n'y a plus aucun mouvement de molécules.
Exactement, aucun mouvement dans les particules de la matière.
C'est ce qu'on appelle le zéro absolu,
exactement,
c'est ça ?
Exactement.
D'accord. Oui. Oh, j'avais un vieux souvenir de cours de, je sais pas, de physique ou de sciences nat, je sais pas.
Alors on revient aujourd'hui pour se prémunir contre nos moins 10 degrés, on va observer les plantes et les animaux, et on commence par l'ours polaire. Comment est-ce qu'il s'isole du froid ?
Alors, il a plusieurs mécanismes. Tout d'abord, il a une bonne isolation thermique. Il a une fourrure, vraiment plusieurs couches de fourrure. Il a les poils qui sont, en fait, ils sont pas blancs, ils sont transparents. C'est comme des fibres optiques. Donc, il absorbe toute la chaleur qu'il amène au niveau de sa peau. Sa peau est noire, donc il absorbe bien la chaleur. Donc, une bonne isolation avec une épaisse couche de fourrure. Mm-hmm. Il a une couche de graisse, beaucoup de graisse qui le protège aussi du froid. Et aussi, il a une corpulence. Plus on est gros, en fait, moins on rayonne de chaleur, donc moins on perd la chaleur qu'on produit dans le corps, donc il résiste à des températures beaucoup plus basses que nous.
Et puis on rigolait tout à l'heure avec Stéphane Carpentier et Bénédicte Tassard sur les petites oreilles de l'ours.
Oui.
Ça s'appelle la loi d'Allen, c'est
oui,
ça ? C'est quoi cette loi ?
C'est un scientifique, donc en gros c'est pour dire que plus les extrémités sont petites, plus on va rayonner de chaleur, donc il a des petites oreilles, la petite queue, donc il va être une masse qui va rayonner moins de chaleur.
Oui, mais il a des grosses pattes, l'ours, et c'est une extrémité aussi.
Si vous faites la comparaison avec l'ours brun, c'est la taille est plus petite.
Ah oui.
Oui, il rayonne beaucoup moins de chaleur, il garde la chaleur pour lui.
Et le manchot empereur, tiens, le manchot empereur qui nous a donné le film magnifique de Luc Jacquet et puis cette musique d'Émilie Simon. ce manchot empereur, est-ce qu'il a un système sanguin particulier pour résister au froid ?
Oui, il a un système très particulier. En fait, ses pattes sont contre la calotte glaciaire, donc contre le froid. Mmh. Mais en fait, les artères qui partent, les veines qui partent de ses pattes vers le cœur sont enroulées autour des veines. Il y a un enroulement des veines et des artères, ce qui fait qu'ils communiquent leur chaleur, il y a un échange de chaleur. Donc le sang froid qui vient des extrémités vers le cœur, il se réchauffe et il n'arrive jamais le tronc, enfin le corps du manchot. Donc il ne se refroidit pas par le fait qu'il touche la banquise.
Alors
avec
que ses pattes touchent directement.
Exactement,
la banquise, évidemment.
C'est ce qu'on appelle un animal endotherme, c'est ça, ouais.
C'est un animal endotherme. En fait, nous aussi, on est des endothermes.
Ouais. Ça veut dire quoi ?
Endotherme, c'est en gros, c'est les animaux qui produisent leur chaleur, qui, quoi qu'il arrive à l'extérieur, qu'il fasse 0, moins 10, nous, il faut qu'on garde notre température à 37 degrés. On est des endothermes, on va produire de la chaleur pour garder cette température stable.
Alors, on supporte mal ce froid et pourtant il est indispensable. Tiens, par exemple, pour ces fleurs qu'on adore voir fleurir au printemps, eh ben oui, elles ont besoin du froid. À tout de suite, les curieux.
Bonjour, c'est Julien Cellier.
Bonjour, c'est Marina Giraudeau.
RTL Petit Matin.
Chaque matin, entre 4h30 et 7h, nous vous réveillons et vous informons dans la bonne humeur.
Autour de la table du petit déjeuner, Cyprien Signy et ses infos corrosives, Pauline de Saint-Rémy et les coulisses du pouvoir, Christian Menanteau pour décrypter l'actu éco, le chef Pasto pour réveiller nos papilles, et puis vous, bien sûr, au 3210 et sur la page Facebook RTL Petit Matin.
RTL Petit Matin avec Julien Cellier, chaque matin à 4h30 sur RTL.
D'hiver dans la nuit sombre et glacée.
RTL.
Encore un autre hiver. Un hiver ordinaire.
La curiosité est un vilain défaut.
On attendra l'hiver.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pour s'écrire constamment.
C'est l'hiver et comme prévu, il fait très froid sur toute la France, moins 10, moins 15 en température ressentie. On vous dit tout sur ces températures polaires avec Eventia Lohanidou, commissaire de l'exposition Froid qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est jusqu'au 16 septembre à Paris et j'ai écorché votre prénom parce que c'est Eventia.
Lohanidou, pas Lohanidou.
J'ai dit quoi ? Ah donc c'est bien Eventia et
oui, Ioannidou.
Oh mais pardonnez-moi.
Vous êtes d'origine grecque ?
Oui.
C'était tellement joli ce nom.
Le froid qui est indispensable à la nature, on le disait juste avant la pause, notamment aux plantes. Pour quelle raison le froid fait du bien à nos plantes ?
Alors on parle des plantes de nos régions comme les pommiers, les poiriers, les bulbes, comme les tulipes.
Oui.
Et en fait, dans leur développement, mm-hmm. il y a besoin à un moment du froid. Ça va agir au niveau de la dormance. Enfin, c'est un moment dans les développements de plantes.
Oui.
Il faut qu'il y ait des températures de l'ordre de 3 à 6 degrés pour quelques semaines, pas plus de 2 mois. Et c'est indispensable dans cette partie du développement de la plante. S'il n'y a pas cette partie de froid, ils ne vont pas fleurir.
Alors, par exemple, quels sont les arbres qui fleurissent au printemps grâce à ce froid hivernal indispensable ?
Je vous donne un exemple. Il y a le lilas, par exemple. S'il n'y a pas ce froid, il n'aura pas cette couleur mauve. Il y aura du lilas blanc. Enfin, il y aura des conséquences dans la couleur de la plante.
D'accord, donc ça déclenche un phénomène.
Exactement.
Qui n'est possible que le froid. Vous dites qu'il faut que ça dure plusieurs semaines quand même.
Quelques semaines, deux D'accord. à trois semaines, jusqu'à deux mois, pas plus.
D'accord. Alors il y a des limites parce qu'on a tous vu ou fait ce bon geste de protéger certaines plantes contre le gel l'hiver. Il y a des limites de température au-delà desquelles certaines plantes ne survivent pas.
Alors déjà, on parle toujours des plantes de nos régions parce
oui.
que les plantes qui sont en Arctique, qui sont adaptées, ils ont d'autres mécanismes.
Mm-hmm.
Il faut savoir que les plantes ont développé un mécanisme, l'endurcissement au gel, c'est-à-dire qui déclenche toute une série de mécanismes à partir de l'automne et tout un hiver pour supporter des températures très très basses qui pourraient les tuer si c'était en printemps ou l'été. C'est-à-dire que quand l'automne, ça sera la fin de l'automne, il y a l'eau qui va migrer dans différentes parties de la plante, il va sécréter des substances qui vont baisser son point de congélation, là où l'eau devient de la glace,
mmh.
et ça va tenir tout l'hiver. Et à la fin de l'hiver, quand le jour va se rallonger, et vers 4 à 5 degrés, et ben ça va s'arrêter, donc il y aura le phénomène inverse, et il sera très sensible au froid. C'est pour ça que s'il y a du gel au début du printemps, ça va tuer la plante. Or, s'il y a au milieu de l'hiver, ça ne le tue pas parce qu'il est habitué à descendre jusqu'à moins 20 degrés.
Parce que ce qui menace les plantes, mais peut-être aussi d'ailleurs les humains ou les animaux, c'est quoi ? C'est que l'eau qui est à l'intérieur de nos corps ou de nos organismes gèle, c'est
oui,
ça ?
Exactement. On est à 90% de l'eau.
Mmh.
Et quand l'eau descend au-dessus de 0 degré, ça devient de la glace, le liquide devient de la glace. C'est des cristaux qui peuvent percer nos cellules, qui peuvent aussi exploser exploser nos cellules et il faut éviter coûte que coûte que ces cristaux se forment.
Là en ce moment, pardon Sidonie, on est fin février, on n'est pas encore dans la période où les plantes se préparent au printemps et où ce gel est dangereux, peut
l'hiver
les tuer.
L'hiver
n'est pas fini, on est d'accord.
Okay. Notre corps n'aime pas le froid, ça c'est sûr, on a du mal à le supporter quand on n'est pas habitué à ces températures, surtout en ce moment. D'ailleurs, dans le bureau de la curiosité, on est certains comme moi avoir trois couches, Thomas il a juste un petit pull, enfin, on voit bien qu'on ne réagit pas de la même manière au froid. Est-ce que nous sommes inégaux face à lui?
Il y en a qui peuvent s'acclimater ou qui peuvent supporter plus facilement le froid, mais il faut savoir qu'on est tous des animaux endothermes et qui sommes réglés à 37 degrés. Donc notre température interne est à 37 degrés. Mais on peut s'habituer à descendre un petit peu cette température.
Mais c'est psychologique quand on dit que quelqu'un est frileux. Est-ce que c'est psychologique?
C'est psychologique.
C'est pas son métabolisme qui fait qu'il est plus sensible
mais
au froid.
Alors comment ça c'est psychologique? C'est-à-dire on pense qu'on a froid alors qu'on n'a pas froid?
C'est un problème de circulation sanguine, je pense,
mais c'est pas psychologique
aussi,
alors.
Mais c'est aussi psychologique. C'est aussi psychologique. Je veux donner un exemple de qui nous racontait Jean-Louis Etienne, l'explorateur, qui disait qu'avant de partir au pôle, il prenait des douches froides, il commençait à s'habituer, il faisait même des séances dans des cabines où il faisait froid. Il avait réussi à baisser, et à son retour des pôles, à baisser son thermostat à 35,5. Donc c'est pas énorme, mais quand même de 37 passer à 35,5. Et ensuite, il a perdu.
Et justement, est-ce qu'il y a une température interne qui devient dangereuse? À partir de quelle température ça devient dangereux?
Alors l'hypothermie,
35,5, jusqu'où on peut aller, quoi.
L'hypothermie commence à 35, on commence à trembloter. Entre 32 et 35, on arrête de frissonner. Si vous voulez, votre organisme, ça dépend combien de temps on reste aussi, s'il y a du vent ou pas, peut arrêter de frissonner. Vers 32, on commence à devenir un peu pas lucide et on perd conscience vers 31 degrés à peu près. Et après, si ça continue et ça descend, c'est mortel vers 25 degrés à
Alors,
peu près.
Que fait le corps pour nous protéger, justement pour protéger les organes vitaux de ce froid ultime?
Alors, juste deux mots avant, qu'est-ce que c'est le froid que l'on ressent? Pourquoi on ressent du froid? Alors, on a tous sur notre peau des terminaisons nerveuses, les thermorécepteurs, et dès qu'il y a un changement de température, ces thermorécepteurs vont envoyer un message au cerveau, à l'hypothalamus, et il va commencer à produire, donc le message sera « produit plus de chaleur ». Donc des frissons, la chair de poule, on va commencer à bouger. Alors, si ça continue à faire froid, on va devenir tout blanc, donc nos vaisseaux vont se crisper pour garder, en fait, l'idée c'est que notre tronc reste au chaud, nos extrémités peuvent commencer à refroidir, mais il faut que nos organes vitaux restent au chaud.
Donc le sang se concentre vers les organes vitaux.
Le cœur, enfin tous ces organes-là.
Alors on parle beaucoup depuis quelques jours du froid ressenti, mais que se passe-t-il à la surface de notre corps? Pourquoi le vent accentue-t-il cette sensation de froid? Réponse dans une minute sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Il faut vraiment chercher les températures positives. Et encore, quand je vous dis positive, c'est 0,5 degrés enregistrés à 7h à Bastia et à Toulon. Mais sinon, partout ailleurs, c'est négatif. Avec de fortes négativités, notamment vers Orléans, moins 7 degrés, moins 10 à Clermont-Ferrand, moins 11 à Épinal et à Millau, moins 12 degrés à Amberieu-en-Bugey, moins 14 degrés à Mende, on a moins 15 degrés au Puy.
Voilà, et comme dans la chanson de Chagrin d'amour, on a tous des frissons. Marina Giraudeau qui nous annonce moins 15 au Puy ce matin, la vague de froid. Tiens, ces promesses, on découvre tout ce que la science nous apprend sur ces températures avec Evancia. Johan Hidou qui est commissaire et chef de projet de l'exposition Froid à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. On va parler du froid ressenti, cette expression qu'on entend beaucoup dans nos journaux sur RTL depuis quelques jours. Et on va l'expliquer scientifiquement. D'abord, quelle est la partie de notre cerveau qui contrôle la température, notre température corporelle, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement.
C'est l'hypothalamus.
D'accord, donc c'est où l'hypothalamus dans le cerveau?
C'est derrière, à l'intérieur derrière.
D'accord.
Et c'est l'hypothalamus qui va piloter, ce que j'ai dit tout à l'heure, les frissons, de produire plus de chaleur quand il fait froid.
Parce que face à ce froid intense, le corps, j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, mais je voudrais qu'on précise, produit quoi? Une petite couche de chaleur à la surface, c'est ça?
Alors, cette couche de cette chaleur, vous la produisez tout le temps.
Oui.
Vous voulez parler du vent aussi pour
voir
expliquer
la
oui.
différence avec le vent et
exactement,
cette température
exactement.
Ressentie.
Donc, si vous voulez, vous êtes une machine qui produit de la chaleur. Oui. Et l'air qui est en contact avec votre peau est réchauffé constamment. Mais quand il y a du vent, cet air est balayé. Donc, ça veut dire que votre peau est directement en contact avec l'air froid.
C'est d'où la différence entre la température annoncée et la température
Exactement.
Ressentie.
Et d'accord. Vous avez une sensation plus intense de froid pour la même température
quand il y a du vent.
Donc ça demande beaucoup d'énergie d'alimenter cette...
À votre corps, ça veut dire demande...
qu'il faut plus manger, mieux manger, mieux se couvrir. C'est quoi
déjà,
les conseils?
Déjà, quand on vit dans des régions où il fait très froid, on a une alimentation adaptée avec beaucoup plus de graisse, parce que notre corps va piocher dans cette graisse pour produire plus de chaleur.
Quand on dit graisse, c'est quoi? C'est les poissons et l'oméga 3 ou c'est
du beurre, du beurre, de la graisse.
Un bon steak bien cuit, son beurre.
Vous parliez de Jean-Louis Etienne tout à l'heure, on l'a reçu dans cette émission il y a quelques mois, et puis il y a quelques semaines, Catherine Destivelle, l'alpiniste, nous racontait cette mésaventure en Antarctique quand elle a fait une chute à 4000 mètres d'altitude avec une fracture ouverte. Bon, elle a réussi à redescendre et à survivre à ça grâce à son compagnon de cordée. Plus généralement, comment les peuples qui vivent dans ces régions de grand froid, dans le Grand Nord, comment ils s'adaptent? Est-ce qu'il y a eu une adaptation de l'évolution, c'est-à-dire génération après génération, est-ce que leur métabolisme est différent d'une autre?
Alors, c'est possible, comme j'ai dit tout à l'heure, comme disait Jean-Louis Etienne, quand il est revenu de l'Arctique, son thermostat il était descendu à 35,5, donc oui, à 1,5 degré de nous. Donc c'est possible que leur thermostat il est un tout petit peu plus bas. Mais je pense que c'est plus ce qui dit Jean-Louis Etienne, c'est quand on vit à des régions comme ça, on adapte toute notre vie à ce froid. Enfin, on change pas notre organisme parce qu'on est des humains, des homéothermes, mais on adapte notre alimentation, notre habillement, notre façon de vivre, c'est culturel, mais c'est aussi alimentaire. Voilà, on s'adapte. Mais il faut pas croire
qu'ils vont... physiologique, c'est-à-dire qu'ils sont pas différents
Vous, si vous allez rester là-bas longtemps, vous allez réussir à baisser votre thermostat d'un degré.
Okay.
Donc on finit par s'habituer et s'adapter. Dans l'exposition Froid qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie, on découvre aussi que le froid peut soigner. Qu'est-ce que, par exemple, l'hypothermie thérapeutique?
Ah, l'hypothermie thérapeutique, c'est une technique utilisée en médecine d'urgence pour des personnes qui ont eu des arrêts cardiovasculaires. Mmh. Et en fait, on descend leur température artificiellement à 34 degrés, donc ils sont vraiment en hypothermie avec une couverture corporelle partout. Et l'idée, c'est de stabiliser, de ne pas avoir de complications neurologiques. Qui peuvent les avoir à une température plus élevée. Donc on stabilise le patient à une température plus basse pendant 24 heures et ensuite on la remonte pour intervenir.
Est-ce que le froid peut aussi servir d'anesthésiant, par exemple, pour pratiquer de la chirurgie?
Pas pour pratiquer de la chirurgie, mais pour soulager des douleurs, oui. Parce qu'appliquer du froid localement, ça fait, vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, les vaisseaux qui se contractent, donc il y a un débit sanguin différent, donc ça aide à récupérer en fait de la douleur. Mais c'est surtout, on utilise le froid en chirurgie, en dermatologie, mais aussi en introduisant des sondes très froides à l'intérieur pour détruire des cellules cancéreuses. Parce qu'en gros, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on refroidit nos cellules au-dessus de zéro, on crée des cristaux, et ces cristaux détruisent nos cellules. Donc en gros, on détruit les cellules, les mauvaises cellules, les lésions. Donc on les éclate.
Bon, on a encore plein de questions à vous poser sur le froid. Tiens, par exemple, des conseils tout simples pour bien utiliser son frigo à venir sur RTL, et puis on ira visiter ces villages de France où on a vu quoi? Des extraterrestres.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado.
RTL.
C'est l'hiver dans le fond de son cœur.
Sidonie Bonnec.
Dans mon jardin d'hiver.
Thomas Hugues.
De Vivaldi à Henri Salvador, en passant par Nicolas Perrac et Francis Cabrel, le froid, l'hiver, ça donne des idées, ça illumine l'œuvre de nos artistes.
Un peu aussi,
et
hein.
On chante aussi pour se réchauffer, c'est pas faux, Sidonie. En tout cas, on continue de se passionner pour le froid dans la curiosité avec notre invité qui est commissaire de l'exposition Froid qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, Evantia Ioannidou. On va parler de notre frigidaire, de notre réfrigérateur. Est-ce qu'il y a des conseils pour bien ranger son frigo? Parce que ça crée du froid, c'est bien pratique, mais comment il faut l'utiliser?
Oui, vous avez une machine, on a tous chez nous une machine qui fait du froid. Ce qu'il faut voir d'abord, c'est où est l'endroit le plus froid à l'intérieur de votre réfrigérateur.
C'est toujours le même, non? Pas forcément.
Pas forcément. Il y a un petit picto qui vous montre ici, c'est l'endroit le plus froid. Donc il faut voir, c'est souvent en bas, juste oui. au-dessus du bac à légumes. Mais il faut quand même vérifier. Et à cette région, c'est à peu près entre 0 et 4 degrés. Donc au-dessus, c'est entre 4 et 6. Dans le bac à légumes, c'est 6 à 8. Et à la porte, c'est aux alentours de 10 degrés. Donc vous voyez, vous avez une gamme quand même de 0 à 10 à l'intérieur.
Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la partie la plus froide?
Dans la partie la plus froide, il faut mettre la viande, le poisson, la crème pâtissière, tout ce qui est dessert, crème pâtissière, c'est les produits les plus sensibles.
Est-ce que les fruits et les légumes supportent bien le froid?
Ça dépend lesquels. Il y en a par exemple un chou-fleur, vous le mettez dans le bac à légumes, mais une banane, un avocat, il ne faut pas les mettre dans le frigo.
Pourquoi? Qu'est-ce qui leur arrive?
Il leur arrive les maladies du froid, ils commencent à avoir des taches, vous pouvez les manger, hein, oui. C'est juste que leur goût s'altère assez vite si vous les mettez dans le frigo.
Et ben voilà quelques bons conseils, merci beaucoup. Il y en a encore beaucoup merci d'autres et beaucoup d'expériences, beaucoup de choses à voir dans cette exposition Froid se tient jusqu'au 16 septembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, Porte de la Villette. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.